l'invitation. Je suis contente de venir à la MMSH, même si c'est un lieu où je ne me suis pas toujours sentie très bien. Et peut-être, nous sommes plusieurs dans ce cas-là, à nous demander mais quel est ce lieu, qu'est-ce que je peux y faire, est-ce que je me sens vraiment légitime, est-ce que c'est chez moi ou pas, voilà. Et je suis contente de venir, de revoir plein de gens qui ont participé à mon parcours universitaire, mais pas que. Je suis assez contente aussi de voir une rentrée doctorale parce que moi, j'ai pas souvenir d'avoir vécu ça dans mon laboratoire. Et je trouvais que, enfin, la présentation qu'il y a eu là, enfin, voilà, et d'autres aussi, je trouve que c'est quand même un moment assez inclusif finalement. Ça donne envie de faire, ça aide à se sentir faire partie quoi, du laboratoire. Et moi, j'ai jamais ressenti ça trop. Donc peut-être j'ai raté les réunions d'entrée, je sais pas. En tout cas, je trouve ça intéressant qu'il y ait de l'information et. Voilà, donc ça fait plaisir de voir que ça existe. Alors j'ai rien écrit, hein. Donc voilà, puisque je travaille beaucoup et je ne suis pas payée pour écrire des articles, des coms et tout ça. Je ne fais pas non plus ma conférence ce matin, puisque on n'a pas le temps, parce que ce n'est pas vraiment le cadre. Mais je vais quand même, voilà. Peut-être vous dire mon parcours vite fait. Donc je suis ethnologue, on dit anthropologue aussi, mais je dis ethnologue. Voilà. C'est le même doctorat, hein. Ethnologue, anthropologue. Donc j'ai soutenu une thèse avec l'IDEMEC, donc à la MSH, et en 2013, sur du coup les appropriations européennes de la batucada, donc d'une pratique musicale brésilienne. Donc j'ai fait du terrain pas mal en France et en Finlande aussi, et au Brésil. Du coup j'ai fait une co-tutelle qui a été au final caduque. Voilà, donc on a monté une co-tutelle qui n'a pas été valable, validée lors de ma soutenance. Ce qui fait que le co-directeur brésilien n'a pas pu venir, il n'y a pas eu de financement pour le faire venir, sûrement parce que je m'y suis mal prise. C'est assez compliqué à mettre en place et à maintenir, dans la mesure où aussi j'ai mis 8 ans à soutenir ma thèse, donc enfin à la faire quoi. Donc avec un arrêt de 3 ans, donc voilà toutes ces complications. Donc avec la MSH c'était compliqué pour moi à chaque fois que je venais. Mais ça se fait. Donc ça s'est fait. J'y croyais plus. Même le directeur du laboratoire me disait qu'il n'y croyait plus non plus. Quand je lui ai dit que j'allais finir, il m'a dit « je ne vous crois pas ». Ce qui m'a pas mal motivée finalement à finir. Voilà, et j'ai eu une bourse. Et, je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, il y avait des bourses régionales. Ça existe encore. Oui. C'est peut-être plus difficile maintenant, il va y en avoir moins. Non, c'est aussi,
ça s'appelle « emploi jeune doctorant », mais c'est exactement la même chose. C'est aussi compliqué au prix.
D'accord. Bon. Donc voilà, j'avais eu une bourse du REFEB, le réseau d'études franco-brésiliennes aussi, donc c'est l'ambassade, la première année. Ensuite, j'ai eu cette bourse régionale, donc ça m'avait déjà fait 4 ans de financement. Je ne savais pas que je pouvais donner des cours à l'époque, quand j'étais en bourse régionale, mais en fait, on peut. Il y en avait qui pouvaient à l'époque. Ouais. Si, on peut. Peut-être toi tu sauras un peu plus, mais on pouvait demander du monitorat, mais j'étais pas au courant. Voilà, donc j'ai pas donné de cours, j'ai fait pendant 4 ans comme ça ma recherche, une sorte finalement de luxe quand même. Enfin, je m'en rendais compte à l'époque, hein, de, pendant 4 ans, pouvoir faire une recherche dont j'ai décidé le sujet, les terrains. Donc voilà, c'était pas évident, mais ça se fait. Donc, peut-être c'était il y a 10 ans, donc je ne sais pas si on peut encore maintenant faire ça. Et puis du coup j'ai travaillé un peu avec le MUSEM, qui du coup m'a financé aussi une partie de mon terrain en Finlande pour participer à une exposition sur le carnaval notamment, qui est un de mes sujets de recherche. Donc voilà, ça se fait quoi, c'est difficile, mais ça se fait. En parallèle à tout ça, un très fort sentiment d'illégitimité m'a quand même collé au basket, hein. Et je pense que l'université a aussi entretenu ça, quelque part, même si c'était mon souci. Je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule dans ce cas-là. Comme je vous disais, me sentir à ma place, en tant que doctorante en tout cas, ne pas me sentir chercheuse à part entière. Dans la hiérarchie aussi du laboratoire dans lequel j'étais, je me sentais un peu... on sent qu'il faut faire ses preuves, qu'il faut jouer un certain jeu et pas un autre. Et voilà, c'était assez douloureux pour moi de sentir que j'étais pas prête à jouer ce jeu-là. Et que du coup, j'allais moi-même, quelque part, me marginaliser ou m'exclure de quelque chose. Mais bon, il y a tout un système, vous savez, qui contribue aussi donc, à renforcer ce sentiment d'illégitimité. Et donc, j'ai trouvé d'autres personnes comme ça, comme moi, qui étaient en thèse et qui avaient ce sentiment-là. Et on s'est regroupés, on a créé une association qui s'appelle le Terrain à dominer, le TAD. Alors c'était bien avant qu'on soit en thèse, on l'avait créé déjà en vérité en 2002. Donc on était en licence. Et déjà à l'époque, quand on a créé le TAD, c'était une façon pour nous en 2002 de dire que ce qu'on apprenait à l'université dans les sciences sociales, c'était quelque chose d'assez puissant pour nous. Moi par exemple qui arrivais de filière technologique, j'ai eu un bac de secrétaire par exemple. Donc quand je suis arrivée en sociologie, d'où mon sentiment aussi d'illégitimité, j'ai quand même trouvé ça très fort comme discipline, politiquement parlant. Et du coup, on a créé le TAD en se disant qu'on trouvait ça pas normal que ces disciplines n'aient pas plus de résonance et d'écho dans la société civile, finalement. Que ce soit dans les médias, que ce soit dans la vie quotidienne, voilà. Donc j'étais à Nice à l'époque, donc ça, voilà, c'est par passion et amour de la sociologie et de l'ethnologie qu'on a créé le TAD en se disant que c'était des disciplines qui avaient une utilité, une nécessité, enfin il y avait une nécessité de s'intéresser à ça, et une nécessité politique en fait. Donc on a commencé à sortir un peu la sociologie et l'ethnologie de l'université, notamment en travaillant avec une friche culturelle à Nice qui s'appelait les Diables Bleus, qui était un squat, une friche, enfin, ça dépend des périodes, hein. Des périodes au niveau légal, quoi. Enfin, il y a eu plusieurs statuts à ce lieu-là. Et donc on a commencé à travailler avec du coup, toutes sortes d'associations, de gens, de militants, des médias locaux, des artistes. On a un peu fouillé tout ça et on a fait des interventions dans l'espace public. Ça a commencé comme ça, sauvage, quoi. Voilà. Et après, on a fait rentrer aussi, du coup, des éléments extérieurs dans la fac. Donc, on a commencé à, par exemple, recréer un carnaval dans l'université, parce qu'on était aussi des ethnologues. On était sociologues, on était aussi des ethnologues, et on avait la chance de travailler avec un grand folkloriste qui s'appelait Claude Guignebé, qui était un des spécialistes du carnaval, de Rabelais, de toutes sortes de sujets fous. Et donc on aimait beaucoup aussi aller dans les villages, arrière-pays, voir les fêtes, essayer de participer. Donc à Nice, il y a une forte culture carnavalesque, et donc on a essayé de créer un carnaval avec les étudiants. Et puis on a fait rentrer comme ça dans la fac de la projection, des films, des débats, des bals de films, du balletti, du bal traditionnel, de la musique. Enfin voilà, on a essayé de faire comme ça une espèce de passerelle. C'est déjà une forme de... pensée, de praxis, quoi, qui forcément influence sa recherche. On va pas faire du terrain de la même façon et on va pas penser sa discipline de la même façon quand on va être dans cette énergie-là de circulation de la connaissance, quoi. Voilà. Donc comme je vous disais, avec ce fort sentiment d'illégitimité et de souffrance aussi, hein, de travail de thèse, donc on s'est regroupé dans cette association, donc avec de nouvelles énergies, des nouveaux doctorants, des gens qui venaient d'ailleurs, dans le TAD. Et là on a commencé à vouloir travailler entre nous d'une façon différente, un peu comme là, hein, on faisait des séminaires, mais on appelait ça les anti-universités d'été. Donc c'était pour vous dire à quel point on était dans... une réaction quand même assez forte à cette université qu'on aimait tant et qu'on détestait tant. Enfin, c'était toujours une espèce d'ambivalence comme ça. Et donc, on a commencé d'abord à travailler entre nous, entre sociologues et ethnologues. Donc, on a essayé déjà de voir si on avait des spécificités réelles, quoi, disciplinaires. Donc, on partait une semaine quelque part, tous, on s'enfermait. on travaillait une semaine ensemble et on faisait des mini-terrains. Donc, on faisait des exercices d'écriture, d'observation. Et on comparait donc nos façons d'écrire et d'observer entre sociologues et ethnologues. Déjà, on essayait de voir ça. Et petit à petit, on a commencé à faire intervenir des gens extérieurs au TAD, des plasticiens, marionnettistes, comédiens, chanteurs, crieurs publics. Donc chaque année, dans notre entière université d'été, on avait un intervenant. Et donc on travaillait, au départ, on travaillait à partir de nos sujets de thèse, avec des nouvelles formes d'écriture. Voilà, donc 2008, ça a été la plus grosse action, puisque donc une intervenante a décidé de faire une restitution publique de notre entière université. Donc on s'est retrouvés... Voilà, le lundi à se rencontrer, à travailler, et le vendredi soir, il y avait 80 personnes qui dévoilaient, qu'on ne connaissait pas, pour voir ce qu'on avait fait. Donc ça a commencé à créer une nouvelle dimension, la dimension de public en fait, de toutes ces recherches qu'on faisait entre nous. Donc la question de la légitimité, là, elle ne se posait plus en fait. C'était maintenant, on y va, quoi, on le fait. Et de le faire, forcément, ça déplace ce problème de la légitimité, puisqu'on se rend compte que, oui, on a du savoir, hein, parce que des fois, on en doute. Ah, j'ai rien à dire. Enfin, voilà, on était un peu là-dedans, mais qu'est-ce que je pourrais bien dire aux gens? Qu'est-ce que je pourrais bien transmettre? Finalement, ma thèse, tout le monde s'en fout. Enfin, il y avait un peu ça. On s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait un grand intérêt pour ce qu'on faisait, que les gens aimaient bien qu'on prenne des risques à essayer de parler autrement. Donc on s'est mis en scène, on a fait du son, on a crié dans la rue aussi, on a fait des choses un peu comme ça. Voilà. Et donc, on s'est formé quelque part, on a monté, on s'est auto-légitimé et on s'est auto-formé jusqu'à ce qu'on fasse appel à des formations et qu'on aille se former ailleurs. Et là, on a rencontré tout le réseau de l'éducation populaire. Notamment à l'époque, c'était une SCOP qui s'appelait le Pavé, qui était en Bretagne et qui faisait des formations un peu partout. Et en travaillant avec le Pavé, on a appris, 10 ans plus tard, que nous faisions de l'éducation populaire, sans le savoir. C'est-à-dire que, après un doctorat en ethnologie, j'avais pas croisé d'éducation populaire dans tout mon parcours universitaire. Peut-être en sociologie c'est différent, mais moi je n'avais jamais entendu parler de l'éducation populaire. J'avais pas fait les éclaireurs, les francas, tout ça. Moi, donc je découvre que je fais l'éducation populaire sans le savoir. Donc cette idée que on est tous ethnologues finalement, on peut tous être ethnologues, on a tous du savoir ethnologique à dire, philosophique ou sociologique ou politique. Donc ça nous a aussi pas mal émancipés quelque part. De voir que il y avait encore tout un monde à explorer de l'éducation populaire qu'on ne connaissait pas, mais auquel on participait quand même. Et donc de là est arrivée l'idée de créer une conférence, un peu spectacle, avec le TAD. Donc à l'époque, on avait écrit une conférence qui était une sorte de jugement des sciences sociales. Donc on voulait faire comme un procès et faire venir à la barre toutes sortes de témoins comme Pierre Bourdieu, des chercheurs qu'on aurait incarné nous-mêmes, et voilà, on voulait faire une sorte de débat comme ça sur les sciences sociales, où sont-elles politiquement, peut-on être neutre quand on fait des sciences sociales, et si oui, pourquoi faire finalement, pourquoi être neutre, on est allé, j'ai réussi donc à faire valoir des droits à la formation pour faire cette formation d'écriture de conférence avec le Pavé. Sauf qu'arrivé là-bas, ils ont dit non, mais en fait, on ne peut pas écrire de conférence collective dans cette formation. Il va falloir que vous fassiez chacun votre conf personnelle. ce qui n'était pas vraiment prévu. Merci. Donc, quand j'ai fait cette formation, qui dure 4 semaines, la première semaine, j'étais en train de finir d'écrire ma thèse. La deuxième semaine, je venais de la rendre. Et la troisième semaine, c'était 5 jours avant ma soutenance. Donc, ça a été assez incroyable de vivre cette fin de thèse et en même temps le récit du coup de mon parcours d'ethnologue dans cette conférence que je devais écrire avec du coup une critique de ce que j'avais vécu, quelque chose d'assez réflexif. Donc ça a été assez dur, assez difficile. Et puis la quatrième semaine, j'ai réalisé qu'en fait j'allais monter sur une scène pour la dire. Là, ça a été aussi très très dur. Donc je suis pas du tout metteuse en scène, parce qu'il y a écrit ça sur le programme. Donc je suis pas du tout metteuse en scène, je suis pas comédienne non plus, et c'est ça aussi l'intérêt de la conférence. Donc gesticuler, comme ça s'appelle, c'est que on se met sur une scène sans pour autant avoir fait du théâtre avant, et en disant je suis légitime dans mon discours, justement. Et j'ai du savoir à transmettre, du savoir politique. Donc en fait, tout ce travail-là d'éducation populaire m'a aidé aussi forcément dans l'accomplissement de ma thèse, quoi, et dans le fait de la valoriser, même si j'ai encore du mal, mais de me dire oui, effectivement, j'ai fait un travail colossal, hein, même s'il est minoré, même s'il est peu reconnu par le marché du travail, par exemple. J'ai fait un travail colossal et j'ai envie de le dire, et j'ai envie de le transmettre. Donc c'est quelque chose d'assez fort quand au bout de 8 ans, on est au chômage, par exemple, hein, 8 ans de doctorat, on est au chômage, quand on est dans une famille, enfin quand on n'est pas héritier, quand on est dans une famille qui ne comprend pas ce que vous faites, qui voit juste que vous êtes au chômage et que quelque part vous êtes un peu le loser de la famille parce que vos frères et sœurs font du commerce ou font de l'artisanat et qu'ils gagnent très bien leur vie. Du coup, vous êtes un peu celui qui a échoué, quoi, quelque part. Donc, voilà, il y a tout ça, quoi, qui fait que changer d'écriture, ça m'a permis aussi de relier tout ça, de relier mon propre héritage social, culturel, donc les dominations qui me traversent, quoi. Et mon propos est donc la forme de ma conférence. Tout ça, c'est lié, quoi. Avoir un objet complètement hybride, qui est pas une conférence, qui est pas du théâtre, donc un objet quelque part illégitime aussi, ça fait sens aussi. C'est une espèce de cohérence quand même politique et dans ce parcours-là, quoi, que j'essaye de transmettre dans mon spectacle, parce que c'est quand même un spectacle, mais pas que. Ce que je pourrais dire. Après, vous me poserez des questions, je pense, j'espère. Je pourrais vous parler aussi de, quand on dit faire des sciences sociales autrement, hein, si c'est un peu le thème, vous parler peut-être du TAD, de quelques exemples de ce qu'on a pu créer avec le TAD. Déjà on faisait des fanzines, donc ça c'était aussi une façon d'écrire qui nous a fait du bien, parce que l'écriture universitaire, c'est douloureux, c'est quand même au niveau formel quelque chose de difficile. Ça peut être jouissif aussi, hein, mais on avait besoin, en parallèle de ça, d'écrire, quoi. D'écrire, et de trouver des formes rigolotes aussi, faire du collage, faire de la BD. On a fait de l'auto-audition, photocopier, quoi, des fanzines, prix libre, distribué, partout où on allait. Ça, c'était le travail un peu de fond sur l'année. Et après, on a créé 3 dispositifs assez rigolos. Le premier, qui a été le plus présenté, ça s'appelle le KSOS, donc KSOS. Et c'est un jeu un jeu sociologique. Qui se rapprocherait à un jeu forain. puisque du coup il y a un parcours forain que les gens traversent comme ça, avec des cartes qu'on leur donne au départ, qui leur donnent une identité sociale. Donc on a des cartes qui disent si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes trans, par exemple. Vous avez des cartes qui disent quelle capitale sociale vous avez. Et des cartes qui disent aussi si vous faites partie d'une majorité ou d'une minorité. Voilà, ça peut être noir, ça peut être voilé. Donc voilà, il y a un jeu de cartes comme ça qui est distribué et qui vous donne un nombre de points au départ du jeu. Et donc le jeu, ben, ce sont des jeux forains. Donc vous avez le premier jeu, c'est un jeu de cible. Hein. Voilà, il faut viser avec des balles, et donc c'est le marché scolaire. Donc vous avez l'ENA au milieu, puis les grandes écoles, l'université, vous voyez. Voilà. Et donc, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Il faut gagner des points K, comme capital, hein, c'est hyper important. Sauf qu'on ne part pas tous avec le même nombre de points. Et donc, à chaque stand, il va y avoir des petites régulations, hein, puisqu'il y a des gens qui vérifient que la reproduction sociale se fait comme il faut. Donc voilà, il y en a qui vont tirer à ça de la cible, tout devant. Puis il y en a qui vont tirer super loin. Voilà, ça commence comme ça. Voilà, puis après il y a le marché du travail, où il faut choper des contrats, et pareil, il y a plus ou moins, il y a des cerceaux plus ou moins grands, selon les points que vous avez en arrivant. Il y a le marché matrimonial avec la pêche, quoi. Vous pêchez votre conjoint, parce que ça vous rapporte aussi des points. Donc voilà, c'est le dernier qui arrive, ben, il reste le chien le dernier. Voilà, il y a de moins en moins de choix. Puis après il y a le marché de la consommation. Là c'est un peu comme au casino, vous voyez un tapis vert comme ça, puis vous avez un carton que vous ne connaissez pas mais qui correspond à votre statut social. Donc vous avez moyen de transport, alimentation, hébergement et consommation culturelle. Et donc on vous jette des produits de consommation, vous devez prendre celui qui correspond à votre statut a priori, puis après vous retournez, vous vérifiez vous avez bien votre bon carton. Voilà, ouais, je vous explique un peu en détail pour que vous ayez une idée aussi du jeu, qu'est-ce que ce jeu. Après il y a la retraite, enfin, de la retraite, hein, c'est un jeu de force, vous tapez puis ça vous dit où est-ce que vous allez finir vos jours. Et ça finit qu'on vous enterre. Et là, il y a Saint-Pierre Bourdieu qui arrive. Voilà. Bon, on le fait pas tout le temps, ça, mais des fois, on avait Saint-Pierre Bourdieu qui arrivait et qui donnait les clés de la reproduction sociale. Et donc, en fait, l'idée, c'est de débriefer sur l'expérience de la reproduction sociale, des dominations. Donc, c'est un jeu un peu violent. Et on s'est posé beaucoup de questions par rapport au public, donc on l'a fait dans l'espace public, on l'a fait dans des festivals, on l'a fait aussi avec des scolaires. La question c'était, est-ce que c'est pas trop violent pour des lycéens? La réponse est non, absolument pas. On s'est rendu compte que ce qui était, que la violence était ressentie beaucoup plus par ceux qui étaient moins confrontés aux dominations. Donc, qui prenaient ça dans la gueule et qui se disaient « Ah non, mais c'est trop dur votre jeu, en fait. » Alors que ceux qui avaient déjà l'expérience de la violence symbolique, de la domination sociale, etc., riaient beaucoup de ce jeu-là, en disant « Ouais, c'est bien, quoi. » Donc finalement, voilà, on a relativisé cette idée de violence, de la violence de notre jeu, hein, en disant bah, « C'est la violence, quoi, c'est la violence sociale. » Et donc c'est un jeu qui fait du bien, en fait. Du bien aux gens qui participent, qui posent des bonnes questions. C'est un jeu qu'on a mis beaucoup de temps à élaborer. C'était très très compliqué. Mais il tourne toujours, plus ou moins, ça dépend. La dernière fois, c'était il y a un an. On le fait à Avignon, sur la place publique. Voilà. Après, c'est très rigolo. Hein. Il y a toute une mise en scène, on est déguisé. Enfin, voilà, il y a tout un univers qui fait que quand même, on s'amuse. On rigole, et voilà, c'est le casse-os. Donc ça a été notre plus grosse expérience, vraiment, de transmission des sciences sociales, transmettre autrement, et ça marche, c'est-à-dire vraiment le déclic que nous, on avait ressenti en arrivant en sociologie en première année, de c'est puissant, hein, enfin moi, voilà, c'est puissant de voir, premier jour de fac, les statistiques de réussite à l'université selon son origine sociale, son baccalauréat, c'est puissant. C'est-à-dire, on se dit, ben voilà, moi j'ai mon bac de secrétaire, voilà, mes parents ils ont ça comme boulot, ok, j'ai 2 chances sur 3 de ne pas finir mon année. Et ben on se dit pas, ah ben je vais pas réussir. On se dit, waouh, enfin on me dit un truc. On me dit quelque chose, quoi. On me dit quelque chose de la société, on me parle comme un adulte. Enfin, moi à l'époque c'était ça que je ressentais parce que j'arrivais d'un bac technologique de secrétaire. Donc vous pouvez imaginer pendant 2 ans tout ce qu'on avait pu me raconter sur l'entreprise, comme c'est bien l'entreprise, accepter de travailler pour rien, vous allez gravir les échelons, et surtout obéissez très très bien à votre patron, et surtout soyez une fille très bien coiffée et très polie, très souriante. Donc pendant 2 ans c'était ça qu'on nous transmettait au lycée, quoi. Donc moi j'arrive, on me dit voilà comment ça se passe, c'est-à-dire il n'y a pas que le mérite, il n'y a pas que le travail, il y a plein d'autres facteurs qui vont faire que vous pouvez réussir ou non. Et ça ne décourage pas, au contraire, c'est vraiment ce que dit Bourdieu, c'est avoir conscience, quoi, des mécanismes de domination, ben, c'est déjà une forme d'émancipation. Ça va déjà libérer quelque chose, quoi. D'autres diront que c'est déterministe et que ça plombe. D'expérience, en tout cas, ce que moi j'ai vécu, c'est pas ça. Et en faisant ce jeu-là, on a bien vu que c'était pas du déterminisme avec lequel les gens ressortaient du jeu, quoi. C'est bien au contraire, quoi. Merci, quoi. Ça fait du bien. Et ça donne envie d'aller plus loin, de lire, de chercher, et aussi d'agir autrement et de se sentir légitime aussi quelque part dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a envie de faire, quoi. Voilà. Un deuxième dispositif qu'on a créé, c'est le secrétariat, justement. C'est de la collecte de secrets. Toute autre ambiance, hein. Et donc là... on accompagne les gens à déposer un secret dans le secrétariat, un secret qui n'est jamais donc révélé, hein, dit, que seuls les participants connaissent. Et on a élaboré donc une sorte de questionnaire pour analyser le secret. Et c'est une façon, donc voilà, et on accompagne les gens dans donc l'analyse de leur secret. Et c'est une façon de partir de l'intime et d'aller aux politiques, quoi, hein, ce qui fait système. Et en fait, ce qui fait secret, ben, c'est lié souvent à des dominations, c'est lié souvent à une norme, à la loi, à la honte. Enfin voilà, il y a toutes sortes de systèmes, hein, culturels, sociologiques, qui font qu'il y a des secrets. Donc, ça aussi, ça a été une belle expérience. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, mais d'essayer d'aller dans l'intime aussi. Voilà. Et après, on proposait 3 traitements de secrets différents. Donc, il y avait la combustion, l'enfouissement et la criée publique. Voilà. Alors, vous pouvez bien imaginer que les 3/4 des secrets collectés étaient des faux secrets. Mais il y en avait quand même une part de vrai, et ça on le voit au moment du traitement du secret. Donc on a toujours eu beaucoup de dérision sur tout ce qui était l'imaginaire des ethnologues, le côté les primitifs, les sauvages, tout ça. Donc on aimait bien aussi faire des faux rituels, des faux trucs comme ça. Donc, quand on brûlait le secret, on faisait une sorte de danse autour du feu, voilà, on faisait chanter les gens. Quand on allait enfouir, on partait très très loin dans la ville. C'était souvent dans les villes qu'on faisait ça, dans des parcs publics. Puis pareil, on faisait une espèce d'incantation. Voilà. Et la criée publique, voilà, c'était tous les faux secrets en général finissaient dans la boîte à crier. Voilà. Et pour nous, ça a été, on l'a fait plusieurs fois, à chaque fois, un moment pour nous, pour parler d'inceste, du système de l'inceste et du système du secret. Donc à chaque fois qu'on faisait notre restitution publique après la criée, on avait une sorte de petit manifeste oral, donc on se mettait en scène aussi, et où on donnait, on partait du travail de Dorothée Ducy, donc on donnait les chiffres, quoi, les statistiques de l'inceste, comment ça marche, le système du secret, comment le système du secret donc, permet, hein, le fait que l'inceste demeure toujours en part constante, hein, dans la société. Voilà. Voilà. Et puis on a un troisième dispositif qui est un dispositif de marionnettes, et dans lequel on présente des situations de domination. Et On fait participer les gens, c'est un peu comme un théâtre forum. Donc on présente une situation de domination et on propose un intervenant, un troisième personnage qui va résoudre le conflit. Et donc les gens choisissent quel personnage va intervenir dans la situation de conflit. Voilà. Et ça, c'est assez trash aussi. Théâtre forum un peu trash. On a notamment une situation, la première scène, c'est un ethnologue qui mesure un corps de noir. Et donc c'est la première scénette qu'on présente, voilà, par exemple. Donc déjà, donc c'est bien sûr un ethnologue qui a un chapeau colonial, enfin voilà. Une autre situation de domination qu'on fait, c'est un patron avec sa femme de ménage noire. Donc c'était bien avant l'affaire Strauss-Kahn, mais c'était exactement la même scène qu'on avait écrite. Et c'était 2 ans avant l'affaire. Donc voilà, c'est une chose assez basique, quoi, qui s'ancre dans la réalité assez souvent. Voilà, par exemple. Voilà. Un autre dispositif, mais là, c'est pas le TAD, c'est avec justement un crieur public. Qu'on a créé ça, c'est une sorte de radio ethnologique, mais pas que ethnologique, mais c'est pas une vraie radio, c'est une radio à ondes courtes, une radio qui émet pour ceux qui l'écoutent. Donc c'est une radio live, donc on rediffuse nos émissions sur d'autres radios, mais voilà, c'est pas retransmis en direct, et donc on a un plateau radio et on va dans des fêtes, des festivals, et on travaille sur la fête. Donc surtout les enjeux qu'il y a autour d'une fête dans un village. Donc, par exemple, en Languedoc, il y a toujours cette problématique entre les locaux qui ont la fête votive et les néos qui vont créer leur festival, donc tous les rapports dans les villages entre les néos et les locaux. Et comment on envisage la fête, parce qu'il y a des mépris réciproques entre fêtes, voilà, entre populations, et ça s'exprime beaucoup au moment de la fête. Donc nous on arrive, on fait du collectage en amont, donc on va recueillir voilà, des témoignages sur la fête, comment ça se passe, la fête, comment c'était avant, qui la faisait, comment elle est financée, qu'est-ce qu'on y boit, est-ce que vous mettez des taureaux ou pas, enfin voilà, toutes ces questions des fêtes de village chez nous, quoi. Et après on fait une émission pendant la fête. Voilà, où on invite des fois des élus, des fois le comité des fêtes, et puis. On fait aussi chanter les musiciens qui sont là. On leur fait interpréter des collectages, parce qu'on va voir des vieux qui chantent en patois, par exemple. Donc on fait rechanter les musiciens qui sont programmés, les vieilles chansons du coin. Voilà, donc ça c'est plus le côté ethnologique, au sens où on va aider les gens à se réintéresser à leur village, à l'histoire de la fête chez eux, pourquoi ils ne parlent pas à telle partie de la population. Pourquoi ils n'arrivent pas à faire la fête ensemble, donc c'est très politique aussi comme question. Et voilà, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place cette année. Et ça continue. Ça fait son chemin. Voilà. Voilà, c'était une présentation, je pense. Je sais à peu près, je n'ai pas tout dit, mais c'est pas mal déjà. Si...